Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30,
avec Olivier Bois.
Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce RTL Midi, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30, 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinion. Votre opinion évidemment sur l'actualité, c'est votre émission. Vous nous appelez au 3210 à partir de 13h, dans les auditeurs ont la parole. À la une de votre journal, ce sera donc peut-être aujourd'hui la journée la plus chaude de notre histoire récente. 15 départements en alerte rouge canicule, on sera à Nantes, où pour le coup les habitants en plus ne sont pas habitués à de tels niveaux de chaleur. On demandera d'ailleurs à Odile Pouget ce que ça fait sur nos organismes d'être au-dessus ou proche des 40 degrés et pourquoi il faut redoubler de prudence. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Parce que c'est tout le pays quasiment qui va frôler ou qui va dépasser les 40 degrés.
Oui, quasiment, puisque la moyenne va de 35 à 40 degrés sur l'ensemble du pays. Des prévisions de valeur à l'ombre, donc vous imaginez bien qu'au soleil, elles seront largement dépassées. On attend même 41 degrés à Bordeaux, à Agen, 42 à Mont Marsan, la chaleur sera écrasante partout. Température la plus basse, 32 degrés pour Ajaccio, la Corse du Sud qui est le seul département en vert hein, sur la carte. 51 en orange, 29 en jaune et 15 départements toujours en rouge sur la façade ouest. Avec un soleil de plomb et un vent soutenu toute la journée sur ce secteur qui, avec la chaleur, aura le même effet que l'air sortant d'un sèche-cheveux et qui malheureusement, pour nos pompiers qui combattent les feux en Gironde, n'aura pas d'autre effet que d'attiser les braises.
Merci Céline, on vous retrouve dans le journal parce que vous nous direz quand même qu'on arrive au bout de cette vague de chaleur. Effectivement, à cause du réchauffement climatique, la question du jour, faut-il éteindre les magasins la nuit? Vous répondez oui à 91%, non à 6%. Les températures qui aggravent les incendies en Gironde, vous le disiez Céline, à Landiras, les 2500 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer avant 17h. Et puis dans ce journal, on parlera du gouvernement qui va tenter de faire passer sa loi pouvoir d'achat. Les débats à l'Assemblée nationale commencent cet après-midi.
RTL Midi.
Et donc d'abord, cette chaleur étouffante sur toute la France, quasiment, on le disait, c'est 40 degrés qui vont être atteints ou dépassés, parfois sur la façade ouest. 15 départements des Landes, au nord de la Bretagne, sont en alerte rouge. On vous retrouve en direct, Nicolas Bobby, à Nantes. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors on le disait, les habitants en plus ne sont pas habitués à de tels niveaux de chaleur, notamment pour ceux qui travaillent dehors.
Oui, absolument. Et en ce moment même, comme un forçat sous son casque de chantier, Christophe est en train de transpirer avec son équipe en plein soleil. Il colle des dalles. Son calvaire va s'achever dans une demi-heure.
On essaye de boire beaucoup d'eau. C'est un peu dur quand ça tape. On a une veste qu'on met depuis l'hiver pour avoir plus chaud. Mais autrement, c'est cette tenue-là qu'on a toute l'année. Il faut toujours humidifier la colle parce que ça sèche la colle à cause de la chaleur.
Jean est couvert comme un lapon, il n'a pas le choix, il travaillera cet après-midi afin de nettoyer des fosses septiques dans le centre de Nantes.
À l'intérieur de la fosse septique, il y a du gaz qu'on appelle H2S, c'est pour ça qu'on est obligé de travailler sous masque. Bah, c'est peut-être l'enfer, mais bon, le jour où votre fosse est pleine, comme on dit, avec du caca, il faut bien nettoyer avant que ça déborde.
Pas question pour Denis le miroitier de poser des vitrines tout à l'heure avec des températures folles.
On a choisi nos chantiers. En l'occurrence, on va travailler en intérieur hein, pour des raisons de sécurité. Hein, parce que travailler en façade, là, comme ce matin, avec des températures entre 40 et 45 degrés, voire plus, c'est même pas possible.
Et bien sûr, les policiers vont continuer de patrouiller dans l'après-midi en pantalon avec le gilet pare-balles.
Merci Nicolas Bobby. Bon courage à eux. Nicolas, vous étiez à Nantes pour RTL. Avec nous en studio, Odile Pouget, spécialiste santé ici à la rédaction. On entend les témoignages à Nantes. Odile, est-ce que l'organisme est encore plus fragilisé quand on approche, quand on dépasse les 40 degrés?
Alors, ce que l'on sait, c'est qu'au-delà de 35 degrés, eh bien, la résistance à la chaleur devient très difficile et qu'au-delà de 40, cela représente des risques supplémentaires pour la santé, bien sûr, avec le fameux coup de chaleur qui peut être très grave. En fait, confronté à une hausse très importante du mercure, le corps humain, pour se protéger, déclenche plusieurs mécanismes de refroidissement, transpiration, augmentation du débit sanguin et bien sûr, plus les températures augmentent, plus ce corps, semblable à un moteur qui dépense une énergie folle pour se maintenir à 37 degrés, va s'épuiser au bout de quelques jours si on ne peut pas lui ménager des plages de repos, particulièrement la nuit. Alors bien sûr, les enfants, les moins de 5 ans, les personnes âgées, les malades aux mécanismes de défense moins performants sont les plus à risque, mais les adultes, bien portants, ne sont pas à l'abri d'une telle défaillance thermique, surtout, comme on vient de l'entendre, s'ils travaillent ou s'ils font du sport à l'extérieur.
l'intérieur.
Et d'autant qu'il y a un effet accumulation, puisqu'on est depuis une semaine autour de ces chaleurs très importantes. Merci beaucoup, Odile Pouget. Alors justement, tenter de se rafraîchir, ça va être le sport national cet après-midi en France. Les 40 degrés, on y sera également à Paris. Et Mathilde Pires s'est rendue dans le parc Monceau, un parc qui est en plein cœur de la capitale.
Je suis au quatrième étage avec le soleil en plein dessus toute l'après-midi. J'ai surtout prévu de trouver un coin au frais, profiter du parc, de l'ombre, se mettre sous les arbres, puis attendre que ça passe.
J'ai mouillé mon chien qui est âgé et qui a besoin d'être rafraîchi, sinon elle n'est pas bien. Je ne vais pas tarder à rentrer et je ne la ressortirai que ce soir.
Là on a profité un peu de l'air frais le matin et puis on va rentrer dans pas longtemps pour préparer le déjeuner et puis on va rester à l'ombre.
Vous avez fait quoi les enfants ce matin ?
J'ai fait de la corde à sauter.
J'ai fait à peu près 30 minutes de foot. J'ai assez chaud. Oui.
Ils nous disent qu'il ne faut pas trop rester au soleil et boire beaucoup d'eau.
Oui, fin de la partie de foot, c'est plus prudent. Voilà pour ces Parisiens croisés ce midi par Mathilde Pires pour RTL. Alors on va boucler comme promis cette large page consacrée à la chaleur avec vous Céline D'Acosta. On voit quand même le bout du tunnel. Là.
Oui, demain déjà sur la façade ouest avec un changement de masse d'air et une perturbation orageuse qui va par endroits faire chuter les températures assez brutalement puisqu'on passera de 40 degrés à Brest, à La Rochelle ou Biarritz, c'est une moyenne de 23-25 degrés. La vigilance orange, elle va décaler vers le nord-est, encore en jaune actuellement. Mais si elle est encore en jaune, c'est uniquement grâce à des nuits plus clémentes. Il faudra attendre encore 24 heures pour les autres avant de repasser à nouveau sous la barre des 30 degrés.
Merci beaucoup Céline D'Acosta et vous nous appelez bien sûr au 3210 pour parler de cette situation exceptionnelle. Quel est votre programme de l'après-midi ? Est-ce que vous vous sentez d'ailleurs fatigué ou plus fragile après une semaine à subir cette grosse chaleur ? Appelez-nous au 3210 à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole.
RTL Midi.
Pour l'heure, il est midi 36 sur RTL et on en vient à ces deux incendies en Gironde qui progressent depuis mardi dernier. C'est une journée à très haut risque aujourd'hui à cause de la chaleur évidemment et à cause des vents. On va aller d'abord à Landiras, au sud de Bordeaux. L'incendie est toujours hors de contrôle. Ce sont maintenant près de 10 000 hectares qui ont brûlé. On vous retrouve en direct, Denis Grandjoux. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes à Landiras. Il y a urgence parce qu'on a demandé aux 2500 habitants de la commune d'évacuer avant 17h.
Oui, je me trouve juste devant la mairie de Landiras où les habitants se relaient non-stop depuis ce matin pour venir chercher des informations. Et ici, tout le personnel, bien sûr, essaie de répondre à toutes ces questions, à toutes ces angoisses aussi qui sont posées.
Vous avez de la famille pour vous héberger ?
Éventuellement.
Allez dans la famille.
Donc, on laisse tous les papiers, on laisse ouais, tout
pour
quoi.
Pour l'instant, c'est les fumées, on évacue, on ne sait pas quand on reviendra.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Les gendarmes vont passer, de toute façon.
Les élus se relaient aussi pour répondre aux questions, c'est le cas de Nathalie.
Il faut évacuer tout. La totalité de Landiras au plus loin, on va voir. Il y a des reprises en fait tout autour de Landiras, de toute façon il y a plein de reprises. En fait ça revient sur ces pas-là, c'est complètement l'enfer. Là, parce que le problème c'est que le feu est parti tellement vite qu'en fait il n'a pas tout brûlé sur son passage et qu'il peut revenir pour continuer de brûler le reste plein fouet.
Et une question se pose, que va devenir la base arrière ici des pompiers qui accueillent entre 500 et 800 hommes depuis le début de l'incendie. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise, mais il est fort probable que tous ces pompiers, que ces centaines de pompiers doivent également trouver une autre base arrière un petit peu plus loin, à l'abri.
Il y a urgence. Merci beaucoup Denis Grandjoux à Landiras pour RTL. Plus à l'ouest, sur la côte en l'occurrence, sur le bassin d'Arcachon, là encore le feu a pris de l'ampleur. Des flammes de dizaines de mètres sont arrivées hier jusqu'à l'océan. Écoutez Ronan Lostic, qui est le sous-préfet d'Arcachon.
Nous sommes, à l'heure où on se parle, à 4300 hectares brûlés. Le feu n'est évidemment pas fixé. La journée sera particulièrement compliquée. D'abord parce que c'est la journée la plus chaude et un vent qui va bouger toute la journée. Et donc forcément avec une potentialité de reprise de feu ou de feu tout court. Le bilan, et c'est tout de même un motif de satisfaction, c'est que aucun camping qui était menacé encore hier n'a été touché. En revanche, à tout moment, le feu peut osciller, repartir, vous dire qu'ils sont définitivement sauvés. Je ne peux évidemment absolument pas le dire parce que ce n'est pas la réalité.
La prudence du sous-préfet d'Arcachon, Ronan Lostic, au micro de Nathan Bocard. Et là encore, appelez-nous au 3210 si vous habitez sur le bassin d'Arcachon, si vous y passez vos vacances. On entend le choc parfois des habitants qui découvrent la désolation et l'ampleur des dégâts. Venez témoigner au 3210 à partir de 13h. Dans les auditeurs, on la parole. La politique maintenant, c'est un vrai test qui commence pour le camp présidentiel cet après-midi à l'Assemblée nationale. Début des travaux sur la loi loi pouvoir d'achat. Le gouvernement arrive avec 20 milliards d'euros pour 20 mesures, notamment un chèque carburant pour les gros rouleurs ou le blocage, la prolongation du blocage des prix du gaz et de l'électricité. Mais parviendra-t-il à dégager une majorité, à trouver des alliés avec des oppositions qui réclament encore plus d'efforts? Eh bien, ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire était l'invité d'RTL Matin avec Stéphane Carpentier et il a voulu se montrer plutôt confiant.
Il y a des progrès qui sont possibles, je ne veux pas citer de noms, mais je vois avec des socialistes, des écologistes, les républicains bien entendu, des compromis possibles.
Sur quoi ? Donnez-nous un exemple, par exemple.
Je vous donne l'exemple des carburants. Je sais que pour les Républicains, c'est un sujet qui est fondamental, je le comprends. C'est un sujet fondamental pour tous nos compatriotes. Nous avons mis en place une remise de 18 centimes d'euros par litre. Certains veulent la prolonger, certains veulent l'augmenter. Il y a matière à discussion. Je ne vais pas préempter les débats parlementaires. Mais je dis que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, il y a matière à discussion.
Voilà pour l'optimisme affiché par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
On a pourtant cru comprendre que les marges de manœuvre étaient, disons, extrêmement minces.
Oui, le compteur de la loi pouvoir d'achat est bloqué à 20 milliards d'euros, vous l'avez entendu, guère plus, car les taux d'intérêt augmentent, le poids de la dette se fait lourd dans les caisses de l'État et il n'est plus temps de dépenser quoi qu'il en coûte. C'est ce que dit et répète le ministre du Budget. La ligne de crête s'annonce donc sinueuse, hein, entre mains tendues aux oppositions et cadres budgétaires contraints, négocier des amendements sans augmenter les dépenses ne va pas être évident, d'autant plus que les oppositions, elles, mettent du cœur à l'ouvrage côté proposition dépensière. Carburant à 1,50€ le litre pour les Républicains, baisse de TVA pour le RN, hausse de SMIC pour l'Alliance des Gauches, des amendements chiffrés à 100 milliards d'euros, impossible donc à satisfaire. Pour vous donner une idée, si jamais le gouvernement décidait d'une ristourne prolongée d'un mois sur les carburants, 18 centimes de ristourne par litre, rien que sur un mois, c'est 800 millions d'euros de budget. Encore une fois, ça vous montre à quel point les équilibres financiers sont serrés.
On va commencer donc à suivre les débats cet après-midi. Merci beaucoup Anaïs Bouissou, vous nous appelez là encore au 3210. Est-ce que ce chèque carburant suffit pour votre pouvoir d'achat? Appelez-nous au 3210. En Ukraine, le président Zelensky se méfie des traîtres au sein même de son administration. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
Il a limogé hier soir la procureure générale et le chef des services de sécurité.
Oui, c'est un coup de tonnerre à la tête de l'État ukrainien. Volodymyr Zelensky se sépare de deux personnages clés qui ont accompagné son ascension au pouvoir. Irina Venediktova, la procureure générale, dirigeait l'enquête sur les atrocités de Boutcha, ses soupçons de crimes de guerre commis par les forces russes. Ivan Bakanov était lui chef des services de sécurité ukrainien, un très proche de Zelensky. Ils sont amis d'enfance, c'est le président qui l'avait nommé à ce poste. Ces deux hauts responsables ne sont pas nommément accusés d'espionnage ou de collusion avec l'ennemi, mais ils doivent répondre dans leur service de plus de 650 cas de soupçons de trahison de responsables locaux sur lesquels enquête la justice ukrainienne, des actes de sabotage au profit des Russes, des défections d'agents passé à l'ennemi. Avant ce double limogeage, samedi, un ancien responsable des services de sécurité ukrainiens en Crimée a été arrêté, accusé d'être un agent des services secrets russes. Il avait été nommé par Ivan Bakanov, lui-même donc limogé hier par Volodymyr Zelensky.
Merci beaucoup Sophie Jousselin. Un mot du Tour de France, c'est le jour de repos aujourd'hui à Carcassonne. Dans 10 minutes, on sera avec Christophe Paco qui va nous parler justement du programme d'un jour de repos quand c'est la canicule. On fait une pause et dans un instant, on est avec la maire PS de Quimper dans le Finistère qui s'appelle Isabelle Assis et elle aussi va vivre une journée record du côté de la chaleur. A tout de suite sur RTL.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Olivier Bois.
Il y a une espèce de courant d'air entre les deux immeubles qui traversent notre terrasse. C'est un petit coup de pouce de fraîcheur.
Les parasols ne vont pas fondre au soleil?
Ils ne vont pas fondre au soleil, non. La terrasse sera complètement ombragée.
Voilà ce témoignage d'une restauratrice à Nantes au micro de Nicolas Bobby qui traduit bien un peu l'ambiance du jour. Tentez comme on peut de trouver la fraîcheur. L'invité de ce RTL Midi est avec nous, Isabelle Assis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la maire de Quimper dans le Finistère, donc 63 000 habitants si je ne fais pas d'erreur. Et vous allez vivre, vous aussi, votre journée record, hein, c'est quasiment acté maintenant. Vous allez dépasser les 36 degrés de 1976.
Oui, absolument. C'est une première dans le Finistère, une première en Bretagne, d'avoir les quatre départements en vigilance rouge canicule, en alerte rouge. Donc on s'adapte comme on peut.
Et alors on parle, à 12h45, par exemple sur la place Saint-Corentin où se trouve votre mairie, il fait combien à l'ombre?
À l'ombre, je pense qu'on est arrivé autour de 33-34, là, à
déjà
peu près.
Déjà.
Ça va continuer à monter.
Alors, on attend dans les 38 degrés.
On entendait tout à l'heure un reportage à Nantes. On dit qu'en plus, dans vos régions, ça n'arrive pas souvent. Est-ce que les habitants, vous avez l'impression, ont anticipé quand même? Est-ce qu'il a fallu faire de la pédagogie, rappeler les gestes de prudence, d'autant plus qu'on est dans des régions où on n'est pas du tout habitué à ce niveau de chaleur?
Oui. Bon, on a quand même eu l'historique de 2003 où là, on avait tous été dépassés, quelle que soit la région. Mais moi, j'avais quand même à cœur de refaire de la pédagogie par les réseaux sociaux, par tous nos canaux d'information. Et puis, il faut s'adapter parce qu'une alerte rouge, c'est quand même une vigilance extrême. Donc, il y a des nouvelles mesures qui ont été mises en place pour la journée spécifiquement.
Vous avez dû téléphoner à des personnes qui sont identifiées comme étant potentiellement les plus fragiles. On pense aux plus âgés, évidemment, mais peut-être à d'autres personnes également.
Oui, on a un registre communal de sauvegarde qui permet de répertorier autour de 450 personnes identifiées comme en vulnérabilité. Et donc, nous avons activé une cellule de crise ce matin pour laquelle les agents appellent individuellement, font du phoning, pour pouvoir s'assurer que les personnes vont bien et leur redonner les conseils et puis intervenir en cas de difficulté. Et ça, j'ai vraiment demandé à ce que chaque personne soit appelée avant midi, puisque le pic de chaleur, c'est pour l'après-midi, il faut informer tout le monde avant.
Est-ce que d'ailleurs les rues de Quimper ont changé là? Vous avez vu un changement? Est-ce que c'est beaucoup plus vide et désert que d'habitude, ou est-ce que les habitants ont quand même profité de la matinée pour se balader avant de se mettre à l'abri?
Alors, actuellement, je crois vraiment qu'il y a moins de personnes dans les rues de Quimper. J'ai vu aussi que des restaurateurs ont décidé de fermer et des brasseries sont fermées pour pouvoir préserver le personnel. C'est dire si c'est vraiment atypique comme journée à Quimper.
Oui, pas question de manger en terrasse, en l'occurrence ce midi, en tout cas
non,
pas protégé.
Non, là c'est pas possible. On a même quand même, parce que nous on a un gros atout, c'est notre littoral qui est à 20 minutes de Quimper, et pour autant une alerte rouge, on préconise de ne pas sortir de chez soi. Donc voilà, on va plutôt préconiser d'aller à la mer à partir de 17-18 heures.
Est-ce que vous avez d'ailleurs des colonies de vacances en base arrière de la mer ou chez vous? Est-ce que là encore, il y a une surveillance accrue vis-à-vis des enfants?
Oui, il y a une surveillance accrue. Alors sur les colonies de vacances, je n'ai pas l'accès direct aux organisateurs. En revanche, nous avons nos crèches, nous avons nos haltes-garderies, également nos centres de loisirs. Et là, tout est prêt. Alors, pareil, les sorties ont été supprimées pour la journée afin de maintenir les enfants dans des endroits frais. Et puis, évidemment, beaucoup recours à l'eau, quoi. Il faut que les enfants s'hydratent. Et là, les consignes sont vraiment... Enfin, on est dans des réflexes habituels du côté des professionnels. Mais surtout, je crois que le gros changement, c'est ce que vous disiez, c'est être beaucoup moins sur l'espace extérieur que les autres jours.
Oui. Et est-ce que vous, en tant qu'élu, ça vous permet d'anticiper les années à venir? On sait que ce niveau de chaleur, ça va être la norme. En tout cas, ça va se répéter de plus en plus souvent, y compris chez vous. Est-ce que ça change votre rapport à l'urbanisme, à la gestion de votre ville?
Oui. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à initier avec mon équipe en 2020. Il s'agit vraiment d'anticiper ce réchauffement climatique qui concerne également la Bretagne, en adaptant la ville à ce changement. Et donc, c'est la question, d'une part, de la place de la nature en ville. On a commencé à végétaliser les cours d'école, les places aussi de la ville de Quimper, mais il faut aller encore plus vite, je trouve, et d'une manière plus importante. C'est la question des mobilités, inciter à l'usage des mobilités actives en prévoyant nos infrastructures. C'est ce que l'on fait en prévoyant notre piste cyclable sur le centre-ville de Quimper. Et puis, d'une manière générale, enfin, vous voyez, il y a un petit détail qui a l'air tout bête, mais on n'a pas de brumisateur public à Quimper, par exemple. Eh bien, on va en commander parce que là, potentiellement, même si on n'est pas en alerte rouge, eh bien, il fait très chaud et il faut vraiment que les gens puissent se rafraîchir dans la ville.
Voilà comment vous préparez également les années à venir dans votre ville. Merci beaucoup, Isabelle Assy, maire de Quimper. Merci d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Bonne journée à vous et bon courage pour l'après-midi. On va faire une pause. Dans un instant, on part à Carcassonne. Là encore, des grandes chaleurs sur la route du Tour. Mais c'est jour de repos aujourd'hui. Alors que font les coureurs sous la chaleur? On rejoint Christophe Paco dans un instant. A tout de suite.
RTL Midi. Tour de France 2022.
RTL, chez vous.
Christophe Paco.
Allez, on va sur la route du Tour, comme tous les midis. RTL chez vous. Avec vous, Christophe Paco. Bonjour, Christophe.
Bonjour Olivier, Bonjour à tous.
Alors, jour de repos sur le Tour à Carcassonne. L'étape d'hier, on le rappelle, a été remportée par le Belge Philippe Sen. Elle a été animée. Vingegaard est toujours en jaune, mais il a perdu ses deux principaux lieutenants en montagne. Abandon de Roglic et de Kreuzweg. On apprend à l'instant que deux coureurs ont été testés positifs au Covid, mais qu'ils ne sont pas dans le top 20 de la course. Alors, Christophe, donc vous avez aussi à Carcassonne la grosse chaleur. Est-ce que ça change le programme du jour de repos pour les coureurs ?
Oui, la quête de l'ombre, tout misé sur la récupération ici à Carcassonne avant d'attaquer les Pyrénées. On va faire un point étape avec le sélectionneur des Bleus du vélo, l'ancien maillot jaune sur le Tour, Thomas Voeckler. Et comme le veut la tradition, coup de cœur de Laurent Jalabert, regard sur la course avec nos confrères du Parisien aujourd'hui en France et rencontre avec le tout frais double champion du monde de natation sur 200 et 400 mètres 4 nages, Léon Marchand, venu en voisin. RTL chez vous, c'est parti.
RTL, chez vous, Christophe Pacaud.
RTL, chez vous, jour de repos et rencontre avec le grand patron du cyclisme français. Oui, le sélectionneur Thomas Voeckler. Salut Thomas.
Bonjour tout le monde.
Alors, entre guillemets, pour faire votre marché sur le Tour, si vous prenez un vainqueur d'étape, ça va être compliqué, français. Hein.
Ah, déjà, le Tour n'est pas terminé. Mais vous savez, je suis les coureurs du Tour, mais il n'y a pas que les coureurs présents sur le Tour. Et le Tour n'est pas forcément le baromètre des coureurs présents ou performants au championnat du monde. Mais il est clair que c'est un point de passage important, le Tour de France, bien entendu.
Avec un sprinter comme Desmarc qui est à la maison ou un Julien Alaphilippe qui va revenir à la compète, on l'espère rapidement.
Et oui, il nous manque, Julien, bien entendu, puisqu'avec son maillot de champion du monde en première semaine, ses qualités de puncher, il aurait pu faire des belles choses.
Et vous, Thomas Voeckler, l'ancien maillot jaune du Tour de France que personne n'oublie parce que c'était une période formidable. Vous êtes sur la moto tous les jours et en ce moment il fait une chaleur incroyable. Comment on supporte en tant que coureur ?
Ah bah quand on est coureur, déjà il y a les techniques qui ont un petit peu évolué, mais en même temps il n'y a rien de révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il faut rafraîchir la machine. Et comment on la rafraîchit? Avant et après le départ, les coureurs ont des gilets de froid, c'est-à-dire que c'est des gilets qui maintiennent le froid, qui sont placés dans des congélateurs, et tout le quart d'heure qui précède et le quart d'heure qui suit la course, ils sont avec ça. Ils ont également de la glace qu'on met dans la nuque tout au long de la journée, des bidons pour s'arroser, et puis également, mais après, et puis bah, pour s'hydrater. Mais il n'y a pas vraiment de solution miracle. Ils galèrent, ils souffrent de la chaleur. La seule chose, c'est que la chaleur, elle est pour l'ensemble du peloton et pas pour, voilà, ils sont tous sur un même pied d'égalité, sauf que certains organismes supportent mieux que d'autres.
Et quelque part, ça tombe bien cette journée de repos, c'est la journée la plus chaude du Tour de France. C'est lundi à Carcassonne, ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? On roule quand même ou on reste au chaud entre guillemets, on reste à température ambiante?
C'est un petit peu à la carte en général, les journées de repos. Hein. Ce qui se dit, il faut aller rouler, c'est un petit peu quelque chose, c'est plus pour les anciens. Mais quand on a une étape de haute montagne, le lendemain d'une journée de repos, normalement, il faut aller s'entraîner pour garder une activité musculaire, cardiaque. Mais avec une telle chaleur, dans les staffs des équipes et les médecins, les entraîneurs, on va, et bien sûr le ressenti du coureur, on va discuter et puis on va prendre des décisions. Et je ne serais pas surpris du tout qu'il y ait une très grande majorité de coureurs qui n'aillent pas sur la route en extérieur et qui fassent un petit tour d'homme-traîneur du vieux d'appartement, hein, amélioré, ouais. Bien sûr, avec leur vélo en intérieur au frais.
Ils ont droit à la piscine au petit lac, non?
Ah bah c'est même conseillé. Ah ouais, bien sûr qu'il ne faut pas oublier le côté plaisir et d'aller faire un coup de trempette si l'hôtel a une piscine. Ça ne veut pas dire qu'on reste bronzé 3 heures sur un transat avec des coups de soleil, mais oui, d'aller se rafraîchir dans une piscine, c'est plutôt conseillé même.
Bon repos, Thomas Voeckler, avant de vous retrouver sur la moto aussi sur France Télé avec notre Laurent Jalabert aussi à nous. Hein.
Exactement.
Tenez le coup jusqu'à la fin parce que ça va être superbe. Hein.
Ah bah oui, comptez sur moi, hein, je serai là.
Merci Thomas.
Tour de France 2022. RTL chez vous.
RTL chez vous avec nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, à Carcassonne, sous la chaleur. Bonjour Christophe Béra.
Bonjour, chaudement mais bonjour.
Un maillot jaune à terre, c'est jamais anodin.
C'est jamais anodin, mais c'est surtout le scénario de cette dernière étape qui était une étape de Carcassonne. C'était du plat, du sprint, et puis remballer, c'est peser. On n'aurait rien pour les leaders du classement général. Et alors merci à celui qui a écrit le scénario de ce Tour de France. Moi, je lui donne le César d'office. Hein.
Carrément.
Quel suspense. Là, on a quoi? On a l'équipe du maillot jaune qui perd au départ Primoz Roglic. Et ensuite, Steven Schroeschweit, impossible à prononcer, pardon, mais deux éléments extrêmement importants pour Jonas Vingegaard. Donc d'un coup, comme l'a dit avec justesse Tadej Pogacar, qui avait perdu lui plutôt deux éléments, maintenant on est à égalité. Ce qui donne une envie de suivre à nouveau le Tour à partir de mardi, qui annonce trois jours, je ne vais pas dire de folie, mais j'ai l'impression que ça va être, on va monter sur un ring. Et puis tous les coups sont permis et ça va y aller. Franchement, mais j'ai pas envie de cette journée de repos, moi. J'ai envie d'y retourner tout de suite.
Vous savez quoi? On se dit à demain.
À demain.
RTL chez vous.
RTL chez vous avec un champion du monde extraordinaire, double champion du monde natation, Léon Marchand sur ses terres. Bonjour à vous.
Et bonjour.
C'est jour de repos aujourd'hui à Carcassonne, mais est-ce que quand on nage comme vous, est-ce qu'il y a vraiment des jours de repos comme les cyclistes?
Il n'y a pas vraiment de jour de repos. Quand on a du repos, on se baigne un peu. Il faut rester dans l'eau. Le contact avec l'eau est important.
Ouais. On l'a vu hier. Hein, il serait bien avec vous dans la piscine parce que hier vers Carcassonne, il a fait plus de 40 degrés par moment.
C'est pas le meilleur jour pour faire un Tour de France, mais bon, je pense qu'il serait mieux dans une piscine.
Hein. Ça se ressemble un peu non, au niveau des efforts parce que c'est quoi? C'est 5 heures de vélo vous pour nager pour être champion du monde, c'est quoi?
Ouais, mais nous c'est à peu près 5 heures, entre 5 et 6 heures de sport par jour. Je pense que ça se ressemble un peu parce qu'au niveau, c'est vraiment un travail d'endurance.
Vous avez 20 ans, c'est formidable, mais ça veut dire que avec tout ce que vous faites comme effort, c'est facile de vivre normalement?
Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que je sacrifie ma vie pour la natation. C'est bien parce qu'aux US, aux États-Unis, j'ai quand même un bon équilibre avec l'école.
Il y a des sports qui se marient plus ou moins bien. Est-ce que faire du vélo pour vous, ça casse quelque chose? Par exemple, si tu fais du ski nautique et tout à l'heure, après tu fais un tennis, c'est compliqué quoi.
Ouais, moi c'est sûr que je suis pas très bien sur terre, je suis meilleur dans l'eau. Je suis surtout très, très mauvais en course à pied. Après en vélo, je sais que pendant le confinement, je faisais pas mal de vélo parce que justement, j'avais pas de piscine.
C'est un scoop quand même, Léon Marchand, médaillé, archi médaillé, qui a pas de piscine quoi.
Ouais, non, pendant le confinement, malheureusement, il y a pas grand chose. Bon, j'ai nagé chez les voisins dans la petite piscine de 2 mètres, mais bon, c'était compliqué.
C'est fou ça. C'est dur, on le voit le vélo, il y a des chutes aussi. C'est un sport très, très difficile. Vous les admirez un peu, ces cyclistes aussi?
Ouais, c'est hyper impressionnant, hein, tout simplement. Il y a des chutes, c'est beaucoup plus dangereux que la natation, par exemple. Nous, la blessure, c'est la tendinite à l'épaule, mais bon, on va jamais se prendre le mur. Donc...
Quand tu oublies un virage, quoi.
Ouais, c'est ça.
Les prochaines échéances, c'est du petit bassin.
J'ai les championnats du monde, normalement, c'est juillet l'année prochaine. Voilà. Et après Paris.
Après, ce sera à Paris 2024, c'est un petit rendez-vous, c'est ça?
Un petit rendez-vous tranquille, ouais.
Salut Léon Marchand, bonne continuation.
Et merci beaucoup.
RTL. C'est vous.
Le coup de cœur de Laurent Jalabert, au chaud dans la cité de Carcassonne. Bonjour Laurent Jalabert.
Bonjour Christophe.
On va revenir sur l'étape d'hier, sur Benjamin Thomas.
Exactement, je voulais donner un grand coup de chapeau à Benjamin Thomas. Si on avait pu le pousser un peu plus fort pour qu'il arrive jusqu'au bout en vainqueur à Carcassonne, il y a tellement manqué peu de choses. Moi j'ai beaucoup aimé son attitude, relancer la course alors que tous pensaient à une arrivée au sprint. Il fallait y croire, il est passé à 15 km de son domicile, on est passé tout près de Lavore, là où il réside. Et Benjamin Thomas dans le final a cru à sa chance, il a voulu forcer le destin et a pensé qu'il pouvait déjouer les plans des sprinteurs. Ça a failli marcher, on le retrouvera peut-être, mais c'est pas terminé pour les Français, faut y croire encore.
Et bon demi-repos Laurent Jalabert, je dis ça parce que ce soir c'est Club Jalabert, 18h30 avec Christian Olivier, ça vous va?
Ça me va, à tout à l'heure.
Christophe Paco, RTL, chez vous.
Et ce soir, Olivier, invité exceptionnel dans le Club Jalabert, le directeur du Tour, Christian Prudhomme.
Formidable, merci beaucoup Christophe Paco. On sera évidemment au rendez-vous, donc, le Club Jalabert, 18h30, 19h.
RTL, chez vous.